Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Au forum Asie-Pacifique qui s'ouvre au Vietnam, Donald Trump et le chinois Xi Jinping présentent des visions concurrentes pour l'avenir commercial mondial. Analyse dans cette édition avec Eric Biegala. Le président libanais Michel Aoun réclame le retour à Beyrouth du président du premier ministre démissionnaire Saad Hariri qui se trouverait toujours en Arabie Saoudite. Emmanuel Macron a fait hier une étape à Riyad pour, selon l'Elysée, faire baisser la tension entre l'Arabie et l'Iran, suivi du dossier avec Nadine Epstein. Selon le procureur de Paris, François Molins, près de 700 Français se trouveraient encore en Syrie et en Irak, sans tenir compte des mineurs non combattants dont le nombre est estimé à 400. Précisions sur ces chiffres avec Camille Magnard. En pleine dégringolade boursière, le groupe Altice annonce la reprise en main de sa direction par le fondateur et principal actionnaire Patrick Drahi. Explication de François-Pierre Noël dans cette édition et puis l'invité de la séquence interview pour faire le bilan de cette semaine de révélations via les Paradise Papers. Pascal Saint-Amand, qui est directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Alors que l'actualité se fait en ce moment en Asie, vous venez de l'évoquer Antoine Mercier, nous recevons l'historien Pierre Grosser pour son essai de géopolitique. L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle et donc peut-être aussi du XXIe siècle. On va voir ça avec lui. Le livre apparu chez Odile Jacob, il est avec nous à partir de 12h55 et déjà un peu, j'espère, dans votre journal. Ouais.
Chine, États-Unis, donc effectivement la concurrence pour le leadership mondial au sommet de l'APEC, le forum de l'Asie-Pacifique qui vient de s'ouvrir donc au Vietnam. Les présidents américains et chinois ont joué ce matin à front renversé, l'un qui défendait l'Amérique d'abord et l'autre qui se faisait le grand défenseur de la mondialisation. Dès son arrivée à Da Nang, donc au Vietnam, le Donald Trump prononçait un discours musclé, prévenant ses partenaires que les États-Unis ne toléreraient plus les déséquilibres commerciaux qu'ils déplorent. Des propos qui contrastent avec ceux de son homologue chinois, Xi Jinping, qui le recevait d'ailleurs avant-hier à Pékin, et selon qui, eh bien, la mondialisation est un processus irréversible qui nécessite le développement d'accords commerciaux. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors Trump pour défendre la protection de l'Amérique, Xi Jinping pour le libre-échange, changement de rôle pourrait-on dire, en tout cas apparemment, qui montre sans doute le bouleversement mondial en cours. La Chine en passe de prendre l'ascendant peut-être au moins sur le plan économique.
Oui, en arrivant à Da Nang, Donald Trump a dans son premier discours public au Vietnam fustigé l'Organisation mondiale du commerce, considérant que l'Amérique n'avait pas été traitée de manière juste par l'OMC. Une dénonciation supplémentaire des instances ou même des accords internationaux que le président américain semble clairement abhorrer. Dès le début de son mandat, il avait décidé de désengager les États-Unis du partenariat transpacifique. Ce traité de libre-échange signé en 2016 et réunissant 12 pays d'Amérique, d'Asie et de la zone pacifique qui s'engageaient à lever 98% de leurs droits de douane sur la plupart des biens et denrées échangés entre eux. Un partenariat qui était d'ailleurs censé aussi contrecarrer l'hégémonie économique chinoise dans la région. Mais pour Donald Trump, il ne doit plus y avoir désormais que des accords bilatéraux négociés de pays à pays et où chacun doit trouver son compte, particulièrement les États-Unis. L'Amérique d'abord, c'est la ligne directrice de l'administration Trump. Contraste saisissant face à ce repli américain, Xi Jinping a, lui aussi, depuis Da Nang, où il participe au sommet de l'APEC, plaidé pour davantage de libre-échange, pour, je cite, un régionalisme ouvert permettant aux pays en développement de tirer davantage profit du commerce et des investissements internationaux. Concrètement, la Chine entend pousser les feux de son initiative dite de la ceinture et de la route, vaste programme d'investissement en Asie, visant à intensifier les connexions terrestres et maritimes en Asie même, ainsi qu'en entre l'Asie et le reste du monde. En face de ces deux visions, s'il s'agit de choisir entre son camp, entre une Amérique inconstante et tentée par le repli d'un côté et de l'autre, une Chine volontariste et capable des plus gros investissements, notamment en matière d'infrastructure, le cœur des pays de la région risque de ne pas balancer très longtemps.
Merci beaucoup Eric Biegala. On salue l'invité donc de la dernière partie de la grande table, l'historien Pierre Grosser. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Votre livre « L'histoire du monde se fait en Asie » trouve en ce jour finalement du sommet de la paix une résonance bien particulière. Celui finalement qui est pour le libre-échange, est-ce que c'est pas celui qui a la main, qui commence à avoir la maîtrise, qui domine? Alors, en l'occurrence, la Chine, aujourd'hui.
Oui, effectivement, à partir du moment où c'est le marché chinois qui fait beaucoup plus rêver que le marché américain, comme ça a été le cas dans les années 80 et 90, c'est la Chine qui a la haute main. Tout à l'heure, il était question de l'OMC. Hein, la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Et en fait, l'OMC, c'est quand même largement une création américaine et euro-américaine, avec notamment des règles en termes de propriété intellectuelle qui sont assez rudes. Mais en fait, assez vite, les Américains ont trouvé que c'était pas assez rude. Et donc, ils ont fait des accords bilatéraux de libre-échange. assez dur d'ailleurs, avec la Corée du Sud, le Maroc, le Singapour. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait plein de ces accords bilatéraux libre-échange. On parlait de bol de spaghetti à l'époque, hein, avec Debout. Et l'étape suivante avec Obama, c'était les morceaux de pizza, c'est-à-dire de faire, par exemple, le fameux TPP, hein, partenariat trans-pacifique. Et là, on a l'impression, alors, et les Chinois à l'époque, c'était plutôt du bilatéral. Et là, c'est le retour au bilatéral pour les Américains, avec plutôt une technique un peu raquette, hein, notamment on l'a vu au Japon, en Corée du Sud, hein, c'est-à-dire on vous protège et en échange, vous achetez des produits américains, notamment des armements. Et les Américains qui retrouvent ce vocabulaire extraordinaire du régionalisme ouvert, c'était le vocabulaire de l'APEC dans les années 1990, un vocabulaire australien-américain.
Ça c'est pour l'économie. Est-ce que la Chine peut aussi prendre un leadership politique, géopolitique, mondial?
Alors, les Chinois ont profité quand même très largement des règles du jeu qui avaient été plus ou moins mises en place par les Américains. C'est comme ça qu'ils ont eu cette croissance absolument exceptionnelle. Et c'est évidemment l'interrogation des Américains qui ressemble à des interrogations qu'on avait au début du XXe siècle. C'est-à-dire finalement, si les pays d'Asie deviennent très développés grâce à nous, est-ce que ça va pas devenir finalement des concurrents? Et aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est que les Chinois sont en train de développer un vocabulaire sur l'hégémonie qui ressemble, et le leadership, qui ressemble beaucoup à celui des États-Unis. C'est-à-dire c'est une hégémonie bienveillante, c'est-à-dire qui amène la paix et la prospérité. Ils rappellent que c'était déjà le cas.
Qui ressemble, mais à la mode chinoise. En quelques mots, c'est quoi la mode chinoise?
À la mode chinoise, c'est-à-dire que c'est mieux que, évidemment, la mode américaine. C'est-à-dire que c'est plus pacifique, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la guerre. L'idée, c'est que les Chinois sont beaucoup plus pacifiques que les Américains, et surtout de non-ingérence dans les affaires internes. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de transformer les régimes politiques, notamment de leurs voisins les plus proches. Et donc aujourd'hui, le discours, c'est que cette hégémonie chinoise, c'est bon pour le monde, c'est bon pour la prospérité, c'est bon pour la paix, etc. Mais il y a une limite, c'est évidemment que de l'autre côté, on lutte contre la pollution spirituelle qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on veut pas trop que le monde vienne quand même en Chine.
L'histoire du monde se fait en Asie, c'est le titre de votre livre, Pierre Grosser, dont on parle dans la dernière partie de La Grande Dame. Merci pour ces premiers commentaires. Question maintenant, où se trouve Saad Hariri, le premier ministre libanais, on le sait, démissionnaire. Il serait encore en Arabie Saoudite. Le président Michel Aoun lui demande de rentrer ce matin à Beyrouth. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, assure lui que M. Hariri est libre de ses mouvements. Saad Hariri avait annoncé sa démission samedi depuis l'Arabie Saoudite. Et il expliquait, Nadine Epstein, craindre pour sa vie.
Au moment de l'annonce de sa démission, Saad Hariri se trouvait à Riyad. Il s'est entretenu avec le roi d'Arabie Saoudite, pour preuve la photo qu'il a publiée sur son compte Twitter. Ensuite, il s'est rendu à Abu Dhabi et a rencontré le prince héritier Mohamed bin Zayed. Puis, certains médias ont annoncé que le premier ministre libanais démissionnaire a été à Bahreïn, tandis que d'autres disaient qu'il était retourné à Riyad. C'est l'avis d'un journal libanais qui publiait en une mercredi « Faites revenir Saad Hariri à Beyrouth maintenant », précisant que le dirigeant était en résidence surveillée en Arabie Saoudite. Même le président libanais Michel Aoun ne savait rien de ce qui se tramait. Il a appris la nouvelle par une vidéo dans laquelle Saad Hariri explique aux Libanais, ouvrez les guillemets, « Je cible Hezbollah, le bras iranien au Liban et dans les pays arabes. Hezbollah qui s'est imposé par les armes, des armes orientées vers les poitrines de nos frères syriens, yéménites et libanais », accuse Saad Hariri. Les Saoudiens assurent eux n'avoir fait aucune pression pour obliger Saad Hariri à démissionner, tandis qu'Al Jazeera pense le contraire et estime que Riyad a menacé les Libanais à choisir entre la paix ou se joindre au Hezbollah. Enfin, vous l'avez dit, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui se rendra en Arabie Saoudite le 16 novembre, puis en Iran, a déclaré ce matin que Saad Hariri était libre de ses mouvements à Riyad, même si on peut se demander pourquoi hier à Riyad, Emmanuel Macron n'a pas vu Saad Hariri.
Voilà, il y a une étape effectivement surprise hier d'Emmanuel Macron de retour des Émirats à Riyad. Il évoque la situation au Liban avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'Élysée affirme que le chef de l'État veut faire baisser la tension entre Riyad et Téhéran. Pas si facile.
La France entretient des relations cordiales avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie est notre premier partenaire commercial dans le Golfe avec 10 milliards d'euros en 2014 et 8,5 milliards d'euros en 2015, précise l'Élysée. En octobre 2015, le Premier ministre français s'était rendu à Riyad et avait signé des contrats d'environ 10 milliards d'euros dans les domaines militaires, financiers, Pharmacie Agroalimentaire. Et de son côté, le prince héritier est venu plusieurs fois à Paris entre 2015 et 2016. Dans le même temps, Emmanuel Macron a plusieurs fois estimé que l'Arabie Saoudite n'était pas fiable en ce qui concerne le terrorisme, tout comme le Qatar. Mais Paris entend garder de bonnes relations avec les pays du Golfe, surtout depuis la crise du Qatar, accusé par Riyad et Abu Dhabi de se rapprocher de l'Iran, adversaire des Saoudiens. La France cherche donc à encourager l'apaisement et le dialogue, un jeu d'équilibriste, d'autant qu'Emmanuel Macron envisage d'aller à Téhéran, première visite d'un président français depuis 1976.
Nadine Epstein, merci. Des millions de pèlerins chiites commémorent en ce moment à Kerbala en Irak l'Arbaïn. C'est l'une des dates les plus importantes du calendrier chiite qui marque la fin des 40 jours de deuil de la mort de l'imam Hussein, assassiné en 680 par les troupes du calife Omeyyade durant la bataille de Karbala. À l'approche du second anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, 130 morts, des centaines de blessés, le procureur de Paris, François Molins, donne ce matin sur France Info des informations sur le nombre de Français qui se trouveraient encore en Syrie et en Irak. Les services de renseignement estiment leur nombre à 690, sans tenir compte, dit-il, des mineurs, qui sont les non-combattants, dont le nombre, lui, est estimé à 400, ça fait donc un peu plus d'un millier de personnes. Nous pensons, affirme François Molins, que la majorité des combattants sont plutôt tentés par un maintien sur zone, car, dit-il, ils font l'objet soit d'un mandat de recherche, soit d'un mandat d'arrêt, Camille Magnard.
Et donc, selon le procureur de la République de Paris, ceux qui risquent de vouloir revenir en France, ce sont surtout les femmes, les veuves et leurs enfants, qui sont estimés au nombre de un peu plus de 400 mineurs, vous l'avez dit. Pour 28 d'entre eux qui ont plus de 15 ans, les services de renseignement français semblent convaincus qu'ils ont pu participer activement au crime de Daesh. Ceux-là seront donc jugés pour ces accusations s'ils rentrent en France. Et pour les autres, les mineurs dits non combattants, il y aura aussi un passage obligé par la case justice française, en tout cas pour ceux qui ont plus de 13 ans. Eux seront entendus pour établir s'ils ont ou non porté les armes. Pour les moins de 13 ans, la prise en charge sera éducative, ils seront placés en foyer spécialisé ou en famille d'accueil. Il y a un autre point sur lequel insiste François Molins, c'est le respect de la souveraineté judiciaire des pays où les djihadistes français auront été arrêtés, Syrie, Irak ou Turquie.
Ces gens-là ont été arrêtés dans des pays qui sont des États souverains, et la souveraineté de ces États leur donne le droit de décider s'ils veulent juger ces femmes et ces hommes dans leur pays, ou au contraire ne pas les juger et les rendre au pays de leur nationalité.
Oui, mais voilà, respecter cette souveraineté, ça pose la question de la peine de mort. Hein, elle est en vigueur en Irak et en Syrie. Là-dessus, François Molins évoque des négociations menées par le gouvernement français au cas par cas pour ceux qui auront été condamnés.
Il espère aussi que l'éventuelle capture de djihadistes puisse permettre d'éclairer certaines zones d'ombre qui demeurent dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre.
Oui, car on sait que ces attentats ont été organisés, pilotés depuis les centres de commandement de Daesh. Sur place, en Syrie et en Irak, les renseignements français ont identifié des personnes qui pourraient avoir joué un rôle dans cette organisation et donc détenir une partie de cette vérité qui manque encore à l'enquête. Mais on ne sait pas encore combien sont morts dans les derniers combats, sans doute plus nombreux qu'on le pense, selon François Molins. Combien ont pu être arrêtés et combien accepteront de parler, combien également sont en fuite. Car il subsiste toujours des zones d'ombre dans l'enquête sur le 13 novembre, en particulier sur les connexions de la cellule de Molenbeek avec l'état-major de Daesh en zone irako-syrienne. Également sur la provenance des armes utilisées il y a 2 ans par le commando des terrasses parisiennes. Les pièces manquantes du puzzle se trouvent peut-être dans les prisons syriennes et irakiennes. En ce moment, les juges d'instruction espèrent en tout cas clôturer le dossier tentaculaire au printemps 2019.
Camille Magnard.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. Patrick Drahi, en pleine tourmente, le fondateur et principal actionnaire d'Altice, reprend en main la direction de son groupe qui est en pleine dégringolade boursière.
Et oui, le titre a perdu 34% depuis vendredi, plus de 54% depuis le 9 juin dernier. François-Pierre Noël, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors pourquoi cette reprise en main par M. Drahi de son groupe dans l'urgence apparemment?
Ça commence par des mauvais résultats en France, Antoine. SFR souffre depuis le rachat par le groupe il y a 3 ans. L'opérateur mobile a perdu 2,5 millions d'abonnés fixes et mobiles. À cela, il faut ajouter des pertes énormes à cause de l'acquisition de nombreux médias, des investissements lourds, notamment sur des droits TV comme le sport par exemple. Altice dépense beaucoup, trop, selon ses investisseurs. Après l'annonce des mauvais résultats de SFR sur le dernier trimestre trimestre, il y a une semaine. L'action d'Altice a perdu 23% de sa valeur sur une seule journée, soit l'équivalent de 5 milliards d'euros. Après cette énorme perte, Patrick Drahi, le propriétaire d'Altice, est pratiquement obligé de revenir sur le devant de la scène. Sa prise de pouvoir au conseil d'administration rassure déjà les marchés financiers. L'action a cessé sa chute infernale ce matin, mais le problème reste le même. Le groupe Altice est très endetté, à hauteur de 50 milliards d'euros. Alors que faut-il faire? Arrêter les investissements ou réduire les coûts? D'ici la fin de l'année, un plan de réduction de plus d'un tiers des effectifs du groupe, soit environ 5000 personnes, doit se conclure. Altice investit aussi de plus en plus aux États-Unis, d'où il tire un tiers de ses revenus. Les questions qui se posent maintenant, Antoine, sont nombreuses. Comment arrêter cette défiance des investisseurs vis-à-vis du groupe Altice? L'investissement est tellement lourd depuis quelques années qu'il faut bien en tirer un jour des bénéfices. Oui, mais quand? La diversification de ses investissements en France, en Israël, au Portugal et aux États-Unis donne quand même un certain poids financier au groupe. Les prochains mois risquent donc d'être compliqués pour Patrick Drahi.
Merci beaucoup François-Pierre Noël. Le Venezuela se rapproche d'un défaut de paiement sur sa dette extérieure estimée à 150 milliards de dollars et le pays doit rembourser ce vendredi une échéance de 81 millions de dollars. On est avec Pascal Saint-Amand qui est l'invité de la séquence interview. On va parler des Paradise Papers, mais sur cette situation de défaut de paiement au Venezuela, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe si le pays est en défaut de paiement?
Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Ah bon? Je ne peux pas répondre à votre question. Bonjour quand même.
Bonjour à vous. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour la séquence interview avec Marie Viennot.
Mais d'abord l'actualité politique. Un forum européen organisé par le parti de la gauche européenne s'ouvre cette fin de semaine à Marseille.
Oui, il y a deux jours de débat à l'initiative du Parti communiste français. Et le but, c'est de faire émerger à terme une force commune pour défendre une Europe sociale face à la montée des partis d'extrême droite et des tenants du libéralisme économique. C'est un rendez-vous donc où toute la gauche radicale, ou presque, est représentée. Sophie Delpont, et l'un des principaux clivages de ce groupe, c'est la question européenne.
Oui, quelle stratégie appliquer pour aboutir à une Europe sociale et écologiste aux antipodes de l'Europe actuelle dont d'ici tous dénoncent le libéralisme économique. Les membres du PGE, le parti de la gauche européenne, ne sont pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. La rupture est d'ailleurs consommée entre le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, intégré depuis à la France insoumise, et le grec Syriza depuis la décision d'Alexis Tsipras d'appliquer les mesures d'austérité réclamées par Bruxelles pour continuer d'être financé en 2015. Une trahison, tel Jean-Luc Mélenchon, car il avait imposé ces mesures contre le résultat du référendum. La France insoumise, d'ailleurs, n'est pas présente à Marseille pour ces deux jours. Il y a donc d'un côté les partisans du plan B prôné par la France insoumise et de l'autre ceux qui ne veulent pas utiliser cette menace pour arriver à leur fin. Rappelons que le plan B serait un scénario qui ne serait appliqué que si l'Allemagne refusait d'opérer un tournant radicalement social dans la politique de l'UE. Cette sortie serait coordonnée avec d'autres pays européens qui pourraient être l'Espagne et l'Italie notamment. C'est en tout cas ce qu'espère Jean-Luc Mélenchon. L'idée étant que le plan A, celui de faire fléchir Berlin et les pays du Nord pour renégocier les traités, serait appliqué puisqu'une sortie de la France serait beaucoup trop périlleuse pour l'Europe. Le sommet du plan B s'est tenu à Lisbonne il y a trois semaines, accueilli notamment par le bloc de gauche portugais et en présence de représentants de l'espagnol Podemos notamment, présent aussi à Marseille aujourd'hui et demain. Le Parti communiste français se dit lui ouvert à la discussion sur le sujet, même s'il reste opposé à toute sortie de l'Union européenne.
Sophie Delpont, merci. On revient maintenant à 12h49 vers notre invité, donc Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE, que je ne vais pas interroger sur les questions des dettes des États.
En tout cas, pas du Venezuela.
Pas du Venezuela. On a parlé, on revient donc sur cette semaine de révélation des Paradise Papers. On a parlé de système, de problème systémique. Vous êtes d'accord avec cette qualification-là?
Oui, bien sûr. On a un problème systémique d'évasion et de fraude fiscale. Il y a deux piliers d'ailleurs. Il y a la fraude fiscale des particuliers qui ont utilisé pendant très longtemps, c'est en train de prendre fin, on y est un peu encore, le secret bancaire, le secret fiduciaire, c'est l'utilisation de trusts, de structures opaques dans des paradis fiscaux, dans des juridictions qui offrent le secret pour que les gens se cachent. Ce système était un peu marginal il y a 30 ou 40 ans, mais avec la globalisation financière, avec la globalisation économique, c'est devenu le cœur du réacteur nucléaire, en quelque sorte de la finance mondiale. Et puis le second volet, c'est les entreprises, les multinationales, qui, en toute légalité, presque incitées par les gouvernements qui n'ont pas réglé ces problèmes de fiscalité internationale, ont pu organiser le divorce entre la localisation de leurs activités dans les États où elles vendent, où elles produisent, où elles font de la recherche et du développement, qui sont des États à haute fiscalité, et puis leurs profits qui sont localisés dans des juridictions où il ne se passe rien, il y a juste des entités juridiques un peu vides et où il n'y a pas de fiscalité.
Marie Viennot.
Oui, bonjour Pascal Saint-Amand. Une question de vocabulaire d'abord. On parle en fait de ces pays comme des paradis fiscaux, ce qui laisse sous-entendre que les pays dont ils s'échappent sont des enfers. Est-ce qu'on ne devrait pas changer les mots quand on parle de ces pays et parler par exemple de pirates, de receleurs, enfin je ne sais pas, quel mot vous emploieriez vous pour être plus juste que paradis fiscal ?
Alors, paradis fiscal, c'est vrai que c'est un côté un peu infamant et que certaines de ces juridictions qui ont fait des progrès se plaignent d'être qualifiées
paradis
de paradis
fiscal. C'est moins infamant que pirate ou receleur. Hein.
Oui, c'est vrai. On pourrait utiliser ça. Et c'est vrai que l'argument des enfers fiscaux est un argument que j'ai longtemps entendu de la part d'investisseurs ou d'avocats dans ces juridictions qui disaient « mais il n'y a des paradis fiscaux que parce qu'il y a des enfers fiscaux. Réglez d'abord le problème du niveau de prélèvement obligatoire en France avant de venir nous embêter. On a la vertu de limiter l'imposition des autres États. » Une partie de ces territoires se comportent effectivement comme des parasites du système international. Mais en même temps, il faut reconnaître que des petites économies ouvertes, elles n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent par rapport aux grands pays et que les grands pays les ont laissés faire pendant très longtemps. Donc il faut faire attention à pas désigner des mauvais, des territoires qui seraient mauvais par nature. C'est que le système l'a permis. Et c'est aujourd'hui le vrai enjeu de remettre en cause ce système et de faire en sorte que les petites économies ouvertes qui ont besoin d'être ouvertes pour attirer des capitaux ne le fassent pas au détriment des autres pays.
Ces petites économies ouvertes, c'est aussi l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Là, on ne parle pas de petits pays quand même.
Ben, si on compare à la France et l'Allemagne, si, on parle de petits pays. L'Irlande est un peu périphérique. Il y a eu toujours besoin d'avoir un régime fiscal très attractif pour compenser le fait que son marché est très petit. Donc, les problématiques et les intérêts...
Ça se justifierait presque par leurs besoins économiques, en fait.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que les intérêts des pays étant divergents, il a été très difficile jusqu'à présent d'avoir des règles communes. La situation est inacceptable. Les résultats de la situation actuelle, qui sont l'absence de régulation fiscale mondiale de la fiscalité et les difficultés d'harmonisation de l'Union européenne, aboutissent à une situation que les citoyens des différents États, même en Irlande, ne peuvent plus comprendre. Les multinationales ont une charge fiscale bien inférieure à celle des PME. Les personnes physiques, les femmes et les hommes de la rue payent la TVA qui a augmenté à peu près dans tous les pays de l'OCDE pour compenser la crise financière qui a été suivie par une crise budgétaire, maintenant par une crise sociale et politique. Donc ils payent la TVA, l'impôt sur le revenu a augmenté et l'impôt sur les sociétés des grands groupes est très bas. Pourquoi ? Non pas parce que les parlements souverains en ont décidé ainsi, mais parce qu'on a d'obscures règles de fiscalité internationale qui n'ont pas été actualisées suffisamment depuis 1928 où elles ont été établies pour la première fois.
Alors la réponse souvent à cette question, et vous êtes artisan avec l'OCDE, c'est de dire on va regarder en fait où sont les problèmes, regarder où sont les racines des problèmes, établir des standards, des règlements. Les pays qui veulent participer à ça nous le disent et puis du coup nous reconnaissons qu'ils font partie de notre, vous avez un forum sur la transparence notamment. Mais est-ce que finalement en réfléchissant de cette façon-là, on ne fait pas que complexifier le système, c'est-à-dire on a déjà les traités qui sont, voilà, on a la Constitution, les traités, les lois. Puis là, on rajoute une couche qui est finalement comment analyser les règles et standards de l'OCDE. Donc, on complexifie le système. Et plus le système est compliqué, plus les intermédiaires peuvent finalement se jouer des failles qui resteront.
Alors, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Le point de départ, c'est que les États sont souverains d'un point de vue fiscal. Et pendant très longtemps, ils ont été souverains, ils avaient des systèmes clos qui n'interagissaient pas les uns avec les autres. Et cette réalité juridique économique a été surpassée par la globalisation. Ce qui fait que les acteurs, les contribuables, ils sont globaux, les administrations fiscales, elles sont locales. Donc ils ne sont pas à armes égales.
Les contribuables ne sont pas globaux, moi je ne peux pas...
Certains contribuables, bien sûr que non, mais on parle des très riches et on parle des multinationales. Et c'est là qu'il y a le problème. Et pour résoudre ce problème, en fait, il faut organiser la coopération entre ces souverainetés. C'est ce qu'on fait. Les Paradise Papers, hélas, pour moi, ce n'est pas une surprise. On connaît ces schémas, moi, ça fait 5 ans que je les dénonce, le fait de passer par un ruling aux Pays-Bas, au Luxembourg, le fait d'utiliser des produits hybrides, on ne va pas tomber dans le jargon fiscal, mais je pourrais vous décrire 36 schémas qui sont absolument anormaux. On les connaît et la seule solution, c'est de faire en sorte que les États se mettent d'accord pour les résoudre, parce que s'ils ne sont pas d'accord, on aura toujours des trous noirs.
Émilie Cariou, qui était députée En Marche, qui était ici à votre place hier, vice-présidente de la Commission des Finances, disait si les politiques le voulaient, en 2 ans, la question serait réglée.
Oui.
Alors les politiques ne le veulent pas. On en conclut ça.
Alors, parce que vous dites. Pour être juste, il faut dire que les politiques ne l'ont pas voulu jusqu'à la crise financière il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, les choses ont changé. Alors, il ne faut pas que l'émotion des Paradise Papers nous fasse oublier ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Le secret bancaire est en train de mourir parce que les pays, y compris la Suisse, qui vivait sur le secret bancaire, ont mis fin au secret bancaire. Ils ont accepté de faire de l'échange automatique de renseignements.
Il reste les trusts.
Pardon, j'aurais dû dire bancaire et fiduciaire parce que les trusts sont naturellement couverts. Donc, il ne reste pas les trusts dans ce domaine. Toute l'information va circuler. Donc, si aujourd'hui, on a un contribuable français qui a un compte bancaire en Suisse, cette information sera donnée à la France le 30 septembre 2018. Ça, c'est fini. Premier élément du G20 qui a changé les choses. Le deuxième, c'est ce qu'on a lancé il y a 4 ans, qui est un projet pour taxer les multinationales. Faire en sorte que toutes ces défaillances du système, les rulings opaques ici, l'utilisation des conventions fiscales là et plein d'autres techniques prennent fin. Pour ça, il faut organiser la coopération et les États se sont mis d'accord en novembre 2015 sur 15 mesures qu'on est en train d'appliquer. Les Paradise Papers, il faut espérer que c'est une photo du passé et encore du présent puisqu'on est dans la phase transitoire vers l'application. Il faudra voir maintenant dans 2-3 ans quel est l'impact, s'il est suffisant.
Merci beaucoup Pascal Saint-Amand d'avoir accepté notre invitation pour tirer le bilan de cette semaine de révélation. Un temps généralement gris et pluvieux aujourd'hui sur la plupart des régions. Température 6 à 18 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. 17h, le magazine de la rédaction Reconstruire à Saint-Martin, les leçons d'Irma. Ce sont les reportages de Véronique Rebérotte, réalisés par Annie Brault, présentés par Tara Schlegel. Et le journal à 18h est avec Anne Fauquemberg.